à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi, une émission préparée ce matin par Samuel Bernard, mais aussi Violette Voldoir et Caroline Bonin, à la réalisation Luc-Jean Reynaud, à la technique Jean-Guilain Meige. Florian Delorme a pris quelques jours de vacances, vous le retrouverez sans faute lundi prochain pour une semaine consacrée à la question des famines dans le monde. Mais avant cela, nous allons explorer toute cette semaine la politique étrangère française. Deux semaines avant le premier tour de l'élection présidentielle, quel bilan tirer du quinquennat de François Hollande en la matière et quelles devraient être les grandes orientations de notre diplomatie? Le volet international est le grand absent de cette campagne et pourtant, les défis qui attendent le nouveau président sont nombreux. Demain, on se demandera comment sauver ce qui est considéré comme l'un des principaux succès de la diplomatie française, l'accord de Paris sur le climat, aujourd'hui largement remis en cause par Donald Trump. Mercredi, on se demandera si l'avenir de notre diplomatie passe d'abord par la diplomatie économique. Jeudi, on fera le bilan des interventions françaises en Afrique. Peut-on, doit-on continuer à engager notre armée à l'étranger et pour quelle efficacité? Mais aujourd'hui, on tentera de déterminer quel pourrait être le rôle de la France dans le nouvel ordre mondial, dominé par trois géants, les États-Unis, la Russie et la Chine.
La France, pour entraîner, pour influencer, pour convaincre, pour agir, et dans tous les domaines de la vie internationale, doit être forte. Forte moralement. C'était le cas le 11 janvier, quand des millions de Français ont su conjurer la peur et manifester pour la liberté. C'est ce même message qui doit être porté aujourd'hui. La France doit avancer. Sa vocation, ce n'est pas le repli. Son destin, ce n'est pas de s'abriter derrière des lignes Maginot. Elles n'ont jamais arrêté qui que ce soit. Son honneur n'est pas d'abandonner ses valeurs, de renoncer à l'idée même qu'il anime au nom d'une identité figée. Face au monde, c'est en étant elle-même que la France réussira. À condition qu'elle ait le courage de faire des choix, de les assumer et de les faire partager.
François Hollande, lors de la 6e conférence de presse à l'Élysée en septembre 2015, c'est devenu une rengaine lorsqu'on parle de la politique étrangère française, de déplorer la perte d'influence de la France sur la scène internationale. Un recul qui serait la conséquence, entre autres, des erreurs stratégiques commises lors des deux derniers quinquennats. Certains reprochent à Nicolas Sarkozy et à François Hollande leur alignement sur la politique étrangère américaine et la disparition de la voix singulière de la France dans le monde, dans la tradition de De Gaulle, Mitterrand ou Chirac. D'autres louent au contraire le pragmatisme et l'interventionnisme qui ont conduit la France au Mali, en Centrafrique et en Syrie contre l'État islamique. Deux conceptions s'opposent ici. La première privilégie une approche multilatérale qui permettrait à Paris de garder son indépendance. La seconde prône un ancrage fort de la France dans le monde occidental. Quelle doit être aujourd'hui la doctrine de la France dans un monde en plein bouleversement, marqué par l'élection de Donald Trump, le Brexit, la reprise d'Alep par Bachar el-Assad et le retour de la Russie sur la scène internationale? Faut-il revenir à une politique gaullienne, universaliste, ou au contraire s'arrimer à la famille occidentale, je mets des guillemets? Quel enseignement tirer de la politique étrangère qui a été menée ces 5, 10, 15 dernières années? Dans un système mondial toujours plus interdépendant, la place de la France dans le monde passera-t-elle nécessairement par une Europe puissante? Et enfin, la France a-t-elle intérêt à se détourner des États-Unis et à se rapprocher de la Russie ou encore de la Chine? Voilà toutes les questions auxquelles on va essayer de répondre ce matin. Avec vous, Thomas Gomard, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes historien des relations internationales, directeur de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Et vous avez co-dirigé avec Thierry de Montbrial cet ouvrage, Notre intérêt national, quelle politique étrangère pour la France, paru en janvier chez Odile Jacob. Vous avez également publié une note de l'IFRI ce mois-ci intitulée L'agenda diplomatique du nouveau président avec de nombreuses collaborations. Nous sommes donc 15 jours avant le premier tour de l'élection présidentielle, c'est l'heure des bilans. Le quinquennat de François Hollande a été marqué par une série de chocs imposés par l'actualité, à commencer par les attentats et la crise financière. On a pu avoir le sentiment, Thomas Gomard, que les dossiers étaient traités les uns après les autres sans qu'il y ait de stratégie globale. On peut dire que François Hollande a mené une politique étrangère essentiellement réactive?
En quelque sorte, oui. Il a subi un certain nombre de chocs et le principal, vous l'avez noté, ce sont évidemment les attentats et leur corollaire, l'état de guerre désormais dans lequel nous sommes avec un état d'urgence. C'est-à-dire que la France, après les attentats du Bataclan novembre 2015, se considère en guerre. Et donc évidemment, ça a des conséquences très lourdes en termes de sécurité intérieure, mais également pour notre politique étrangère. Deuxième élément, c'est que effectivement, ces chocs, il les subit à un moment où la France voit son d'influence se réduire, en particulier en raison de sa situation économique. C'est-à-dire qu'au fond, la grande difficulté à laquelle le président Hollande s'est heurté, c'est qu'il a subi des chocs extérieurs à un moment où l'économie française se portait beaucoup moins bien. Donc au fond, ses marges de manœuvre ont été réduites. Maintenant, quand on regarde ce qu'il a fait au cours de ces 5 années, eh bien, il y a à la fois des réalisations tout à fait visibles. Je pense en particulier, vous le notiez dans votre propos liminaire à la COP21, qui restera probablement comme le temps fort diplomatique. Et puis également, peut-être de manière plus à mettre sur le compte des échecs, une politique européenne qui n'a pas su s'exprimer.
Vous faites partie de ceux, Thomas Gomard, qui considèrent que François Hollande aura été un gestionnaire, mais pas un visionnaire.
Oui, on peut effectivement le mettre davantage dans cette catégorie, c'est-à-dire que François Hollande appartient à cette génération d'hommes politiques. Il y a d'ailleurs un certain nombre de similitudes à mes yeux avec Nicolas Sarkozy, qui arrive au pouvoir en fait très peu préparé sur les questions internationales. Le mode de sélection de nos dirigeants fait que les questions internationales sont peu importantes dans le choix que nous pouvons faire au moment de l'élection présidentielle. Vous l'indiquiez d'ailleurs sur cette absence de débat sérieux sur les questions internationales dans la phase électorale que nous traversons. Et François Hollande, au fond, est arrivé avec une préparation minimale et confronté à ces chocs que nous mentionnons. Et de ce point de vue, effectivement, il a fait preuve d'une capacité de réaction indéniable. On pense évidemment à l'intervention au Mali. On pense aussi à la manière dont il a géré la crise ukrainienne. Mais c'est pas un président qui était porteur, au fond, d'une vision, qui est arrivé avec une vision très construite de ce que devait être l'ordre international et la place de la France dans cet ordre.
On a beaucoup parlé de pragmatisme pour définir la politique étrangère de François Hollande, et vous en parliez. C'est un pragmatisme qui a fait ses preuves avec les accords de Minsk en 2015, même si aujourd'hui les négociations de paix en Ukraine sont aujourd'hui au point mort. Et vous l'avez mentionné, les interventions au Mali et en Centrafrique qui lui ont donné une stature inédite. Donc on voit que la politique étrangère fonctionne toujours pour se donner ce crédit par rapport à toutes les difficultés qu'il pouvait avoir vis-à-vis de sa politique intérieure.
Si vous voulez, le système de la Ve République fait que le président est le chef des armées. Et c'est souvent ce moment-là qui est le moment le plus fort de l'initiation. C'est quand il est élu, on lui confie le code nucléaire et il fait son premier défilé du 14 juillet. Et François Hollande s'est tout à fait, je dirais, coulé dans le moule de ce point de vue-là. C'est-à-dire que son autorité présidentielle a été très contestée sur le plan intérieur en raison de l'évolution de son mandat, de la fragilité de sa majorité. Et il a donc surjoué d'une certaine manière son rôle de chef des armées parce que c'est ce qui contribuait à sa stature présidentielle. Et de fait, quand vous utilisez l'outil militaire, eh bien, vous rappelez à la rue de Solferino ou au Parlement que vous êtes à un autre niveau que les querelles politiques habituelles.
Vous parliez d'un manque de préparation de François Hollande comme de Nicolas Sarkozy, d'un manque d'expérience aussi. Pourquoi est-ce qu'en France, les élites politiques connaissent si mal les relations internationales? On a l'impression qu'elles ont beaucoup de mal à s'y intéresser parce que c'est pas rentable dans une perspective électoraliste.
Ça, c'est une très bonne question. C'est difficile d'y répondre de manière synthétique. Je pense que les élites françaises sont peut-être encore victimes d'une illusion d'universalisme. C'est-à-dire qu'elles considèrent que ce qui se dit à Paris intéresse le monde entier. Or, malheureusement, c'est de moins en moins le cas, alors même que notre interdépendance, c'est-à-dire le fait que la France soit à la fois sujet et objet d'interdépendance, ne cesse de s'accentuer. Deuxième élément, c'est que le mode de sélection de nos hommes politiques fait la part belle à un mode de sélection par les questions intérieures. François Hollande a été 10 ans premier secrétaire du PS. Il a été aussi choisi en 2012 pour se présenter. Il faut faut se rappeler les conditions de son choix, c'est-à-dire les aventures de Dominique Strauss-Kahn à New York. Autant d'éléments, si vous voulez, qui montrent à quel point les dossiers internationaux sont généralement abordés une fois en place. Et donc, il y a un temps d'apprentissage, plus ou moins long selon les personnalités, et qui donne une importance tout à fait particulière à ce qu'on appelle, l'appareil diplomatique. C'est-à-dire qu'en réalité, la continuité, cette formation est assurée par la cellule diplomatique auprès du président, son état-major particulier, les services de renseignement, et progressivement, je dirais, il doit s'y mettre.
Alors que, effectivement, vous dites que ça prend beaucoup de temps. Je crois que c'est Valéry Giscard d'Estaing qui disait qu'il avait mis, vous le citez dans votre livre, 3 à 4 ans à maîtriser la question des codes nucléaires. Donc on voit qu'effectivement, il y aurait le besoin d'une préparation bien plus en amont.
C'est pas tout à fait ces codes nucléaires. Enfin, comme vous le savez, le président Giscard d'Estaing est peu suspect de modestie intellectuelle, mais il a expliqué à quel point, au fond, le raisonnement nucléaire, ce qu'impliquait la force de frappe, dans toutes ces dimensions stratégiques à la fois d'alliance mais également plus tactique, ça veut dire quoi, la frappe en premier, la frappe en second, lui a demandé effectivement un temps d'apprentissage qui a occupé la première partie de son septennat. Et j'insiste sur ce point, c'est que le passage du septennat au quinquennat a en réalité des conséquences directes sur la politique étrangère, parce que l'horizon de temps du coup est écourté d'une part, et que d'autre part on le voit, le quinquennat a un corollaire qui s'appelle les primaires désormais, et qui est en train de complètement modifier le cadre institutionnel dans lequel la politique étrangère s'est construite depuis 58.
Ce manque de connaissances en question internationale, c'est aussi un problème de formation. Vous notez, je crois, un recul de l'enseignement de l'histoire à Sciences Po.
Oui, alors c'est pas seulement à Sciences Po, ça c'est effectivement une problématique beaucoup plus large, c'est qu'en réalité nous avons des élites politiques qui sont de plus en plus ignorantes de l'histoire diplomatique ou de l'histoire militaire et qui en appellent fréquemment au roman national. Mais comme l'a fort justement tweeté un ambassadeur français à l'étranger, si vous voulez faire un roman national, adressez-vous à des romanciers et pas à des historiens. Et en réalité, on est dans cette situation très très particulière où, à l'inverse, des leaders, je pense par exemple à Vladimir Poutine en Russie, à Erdogan, alors c'est pas quelque chose qu'on peut dire du président Trump, mais sont eux-mêmes saturés de leur propre histoire, c'est-à-dire qu'ont une connaissance historique qui explique beaucoup de leur choix, même si cette histoire est sans cesse réécrite, voire mythifiée dans le cas de la Russie. Dans le cas français, il y a une très grande difficulté effectivement à observer ça, tout le monde se référant plus ou moins systématiquement au général de Gaulle, sans remonter au-delà, et souvent avec des interprétations très sélectives de l'héritage du général de Gaulle.
Est-ce que c'est dû aussi à la faiblesse des think tanks français, Thomas Gomard? On a l'impression en Europe qu'en matière de politique étrangère, les idées, les théories s'élaborent beaucoup plus à Berlin ou à Londres qu'à Paris. C'est une réalité?
Oui et non. Oui, dans le sens où effectivement, dans ce qu'on appelle l'industrie des think tanks au niveau international, les instituts français, dont l'IFRI, sont peu représentés et ont un poids économique très limité par rapport notamment à leurs partenaires allemands ou britanniques. En même temps, il faut pas du tout non plus, s'auto-flageller, c'est-à-dire qu'avec ces moyens limités, je trouve que dans leur ensemble, les think tanks français font un travail tout à fait intéressant à noter au niveau international. Le problème est différent, si vous voulez, en Allemagne, au Royaume-Uni, aux États-Unis, c'est que ce qu'on attend des think tanks est différent en raison de la culture politique et de la culture administrative française. Bien souvent, les think tanks, on leur reproche de ne pas faire suffisamment de recommandations, et en même temps, dès que vous faites une recommandation, le pouvoir politique ou le pouvoir administratif a tendance à dire « mais de quoi vous mêlez-vous » pour schématiser à outrance. Évidemment, les choses évoluent de manière plus favorable. Mais dans la production d'idées, il y a effectivement le paradoxe suivant, c'est que nous sommes très attendus. On attend un point de vue français. Et comme directeur de l'IFRI, bien souvent, je suis invité à l'étranger parce qu'il y a le F de IFRI. Et en même temps, nous avons des moyens qui sont très réduits par rapport à ceux de nos principaux partenaires.
Revenons un petit peu en arrière, si vous le voulez bien, Thomas Gomard. Selon vous, la politique étrangère française a connu un tournant en 2002. À partir de cette date, écrivez-vous, la vision gaullo-mitterrandienne et le consensus qui prévalait depuis 1958 s'interrompent. Est-ce que vous pouvez d'abord nous rappeler quelle était cette doctrine qui prévalait depuis le début de la Ve République et pour quelles raisons ce consensus s'interrompt-il en 2002, donc soit lors du deuxième mandat de Chirac, selon vous?
Bon, d'abord, Peut-être pour revenir sur votre propos liminaire, c'est vrai qu'il y a une sorte aussi de tendance en France à toujours voir ce qui ne va pas et à dire la politique étrangère française n'est plus ce qu'elle était, etc. Je pense que c'est une impression qu'il faut corriger. Et justement, en partant de 58, est-ce que la situation de la France en 56, au moment de la crise de Suez, alors que la guerre d'Algérie se déclenche, est fondamentalement meilleure qu'aujourd'hui? Je ne crois pas. C'est-à-dire que en politique étrangère, comme dans d'autres domaines, il y a des hauts et des bas, il y a des oscillations, et nous sommes effectivement dans une oscillation défavorable, parce que je crois que la première raison, si vous voulez, notre situation économique, notre manque de réformes structurelles et donc notre perte de crédibilité par rapport à nos partenaires européens. Et c'est d'ailleurs là-dessus que les candidats à la présidentielle entrent. C'est précisément sur cette idée sur laquelle la France serait presque un isolat et qu'elle pourrait se soustraire à ses engagements internationaux. Et voilà, c'est pas le grand soir, si vous voulez, mais c'est, au fond, nous pourrions, par la seule force de notre verbe, recomposer l'Europe. Je crois que malheureusement, c'est une chimère, compte tenu du système interdépendant dans lequel nous le sommes. Alors ça me permet de faire un retour, justement, à 1958. Lorsque le général de Gaulle arrive au pouvoir, il fait deux choses très importantes. Il lance le plan RUEF, qui est un plan d'assainissement des dépenses publiques. Il enclenche évidemment le processus qui conduira à l'indépendance de l'Algérie, mais il comprend qu'il n'y a pas de politique étrangère possible sans une assise économique forte. Pourquoi ? Parce que si vous n'avez pas cette assise économique forte, vous êtes tout simplement sous la coupe des gens qui vous ont prêté de l'argent. Nous sommes de plus en plus dans cette situation aujourd'hui en 2017. Alors à partir de là, les principes de la politique étrangère du général de Gaulle, qui vont être en gros repris par François Mitterrand, mais avec des différences toutefois.
Puis par Chirac, mais avec là encore des différences.
C'est évidemment l'indépendance nationale, alliée mais non alignée, c'est-à-dire que la France participe à l'Alliance Atlantique, mais à sa manière, avec une petite position de côté. Mais en même temps, dès qu'il y a une crise majeure, elle est très clairement du côté occidental. Le projet européen, qui va se structurer à partir du traité de Rome 1957 et que le général de Gaulle va porter. Et puis effectivement, une volonté multilatéraliste, c'est-à-dire d'utiliser au maximum le siège permanent au Conseil de sécurité, renforcé par l'arme nucléaire. Ça, ce sont vraiment, je dirais, les actifs sur lesquels la politique étrangère continue de se construire. Alors maintenant, si on arrive à 2002 et à la rupture, pourquoi j'y vois une rupture? D'abord, précisément, parce que c'est le passage du septennat au quinquennat, qu'ensuite c'est la présence au second tour de Jean-Marie Le Pen, et donc qui a pour nos partenaires européens un vrai choc. Et enfin, c'est le mandat qui s'ouvre, celui de Jacques Chirac, le dernier, va être caractérisé par, à mon avis, les deux temps forts de la politique étrangère française, dont les échos font encore sentir leurs effets aujourd'hui. D'une part, l'opposition rhétorique à la guerre, à l'intervention anglo-américaine en Irak, avec un coup d'œil historique indéniable, mais une incapacité à changer l'ordre des choses, qui montre bien les limites, au fond, de l'outil diplomatique et de l'outil militaire français. Et d'autre part, évidemment, le référendum de 2005 qui aboutit au non et qui est en train de s'exprimer aujourd'hui.
Thomas Gomard, on a parlé des deux grands courants qui structurent la politique étrangère française depuis 60 ans. Donc le courant gaullo-mitterrandien d'un côté, le courant atlantiste de l'autre. Le premier défendrait, si je schématise, la logique des valeurs. Le second, la logique des intérêts, comme si on avait l'idéalisme face au réalisme. Est-ce que c'est aussi simple que cela ?
Non. Je ne pense pas qu'on puisse les opposer de manière aussi binaire, pour la raison suivante, c'est que, comme je l'indiquais, le gaullo-mitterrandisme s'enracine dans l'Alliance Atlantique. Une des premières décisions que le général de Gaulle prend en 1958, se souvenant d'ailleurs de la manière dont il avait été absent à Yalta, c'est d'essayer de faire un mémorandum à trois dans le cadre de l'OTAN pour se rehausser au niveau de Londres dans les relations avec Washington. Bon. Et donc c'est cet ancrage atlantique qui est une priorité pour lui. Dans toutes les crises qu'il va connaître, en particulier la crise de Berlin, il sera d'un soutien sans faille par rapport à cette alliance atlantique, disant notamment à l'ambassadeur soviétique, eh bien écoutez, nous mourrons ensemble, monsieur l'ambassadeur, ou lors de la crise de Cuba. En revanche, Là où effectivement il y a une différence d'approche, c'est probablement sur le dossier européen. C'est dans quelle mesure, au fond, on considère que la méthode Monnet, le rôle d'initiative donné à la Commission, ce projet européen, cette construction supranationale, ça, pour le général de Gaulle, elle devait rester évidemment sous le contrôle des États, voire notamment le plan Fouché. Et c'est là-dessus, en réalité, que peut-être les divergences entre les deux courants que vous décrivez, à mon avis, s'expriment de la manière la plus visible. C'est pas, à mon sens, une opposition entre intérêts et valeurs, parce qu'au contraire, le gaullo-mitterrandisme, et en particulier l'action du général de Gaulle, c'est précisément d'accorder la plus grande importance aux intérêts, notamment à la connaissance des peuples et de leur histoire, et de partir du rapport de force. Et c'est pas non plus un renoncement aux valeurs, parce que, in fine, ce pourquoi on se bat, ce sont ses propres valeurs, son système de référence, son mode de vie, et le fait que nous défendons un système démocratique.
Pour vous, Thomas Gomard, une politique étrangère se définit autour des intérêts, des valeurs et des alliances. Or, vous constatez que cette notion d'intérêt national dont on parle a progressivement disparu du discours. Pourquoi cela? Et donc, pourquoi vous souhaitez le réintroduire aujourd'hui? Comment ça se traduirait concrètement, cette synthèse que vous proposez entre ces deux grands courants de politique étrangère qu'on a abordés?
Alors effectivement, ce qu'on a noté dans l'ouvrage que vous avez mentionné, c'est qu'il y a une ellipse à la fois sous Nicolas Sarkozy et sous François Hollande qui s'observe dans leur discours sur la notion d'intérêt. La notion d'intérêt venant se loger uniquement dans la notion d'intérêt vitaux, c'est-à-dire sur le haut du spectre et pour tout ce qui a trait au nucléaire. Mais au fond, on a davantage versé dans un discours insistant sur les valeurs. On a, dans l'introduction de l'ouvrage, comme ça, noté un certain nombre d'interventions à la fois des présidents Sarkozy et Hollande tout à fait significatives. Alors, comment expliquer au fond cette situation? Je crois qu'elle s'explique en particulier par les attentes de l'opinion et les pressions médiatiques. C'est-à-dire qu'on a un système qui s'est beaucoup transformé justement par rapport à la période de gaulliste ou même de Jacques Chirac, avec une pression médiatique qui au fond demande sans cesse aux décideurs politiques de réagir. Et ça explique beaucoup, je dirais, cette emprise des valeurs au détriment des intérêts. Alors c'est pas pour dire du tout qu'il faut verser dans un discours uniquement axé sur les intérêts. Au contraire, ce que vous indiquez, c'est que c'est un triangle intérêt, valeur, alliance, et qu'il faut trouver le bon barycentre entre ces trois sommets. Alors maintenant, sur les intérêts, pour répondre très précisément, deux choses. La première, c'est qu'on est reparti de Machiavel dans l'introduction de cet ouvrage, en rappelant que chez Machiavel, il y a la séparation entre ce qui relève de la politique et ce qui relève de la morale. Ça, tous nos hommes politiques ont parfaitement intégré cet enseignement. Mmh. En revanche, il y a un deuxième enseignement qui est malheureusement oublié, c'est que les intérêts, le fait d'avoir des intérêts personnels, c'est ce qui me permet de contrôler mes passions. On dirait aujourd'hui mes émotions. Et en réalité, nous avons, à mon avis, des exemples très récurrents de réactions par l'émotion. Tout à fait récemment, je pense que les frappes décidées par Donald Trump en Syrie peuvent s'interpréter comme une réaction émotive.
Et Dominique Moïse a beaucoup travaillé sur le rôle des émotions dans les relations internationales.
Absolument, il a fait un ouvrage qui s'appelle Géopolitique de l'émotion qui effectivement essaie d'illustrer cette idée. La deuxième idée de l'intérêt, si vous voulez, c'est que quand vous raisonnez avec l'intérêt, vous êtes dans une approche graduelle. Vous n'êtes pas dans une approche blanc ou noir qui est souvent celle des valeurs. Et donc, par conséquent, vous êtes souvent dans une logique qui consiste à prendre en compte l'intérêt de l'autre et donc à construire aussi votre politique en fonction de cette prise en compte.
Il y a le fait de prendre en compte l'intérêt de l'autre, il y a le fait de communiquer sur les intérêts. Ce que vous dites, c'est que par exemple la France n'a pas de discours clair sur son intérêt, par exemple à coopérer avec l'Arabie Saoudite, et c'est pour ça qu'elle essuie des critiques au nom des valeurs bafouées par Riyad. On aurait intérêt simplement à plus communiquer sur les intérêts, et pourquoi cette pudeur à énoncer ce terme?
Je ne sais pas si c'est un problème de communication ou de pédagogie. C'est-à-dire que nous avons, de la même manière qu'on a eu cet échange sur le manque de préparation, je pense qu'il y a un manque de pédagogie fait par nos hommes politiques et plus largement par les gens qui s'intéressent aux questions de politique internationale sur ce qu'est la vie internationale, à quel point c'est dur, c'est rude, que c'est pas uniquement des déclarations d'intention, que ce sont des rapports de force extrêmement difficiles, rugueux. Alors maintenant, pour votre question sur l'Arabie Saoudite, par exemple, je pense qu'une Une bonne explication serait de rappeler les choses suivantes. C'est que la politique étrangère française depuis 1945, à l'instar de celle des autres membres permanents du Conseil de sécurité, vis-à-vis des pays du Golfe, peut se résumer par une formule très simple qui consiste à dire nous prenons de l'énergie dans cette région et nous vendons des armes. Ça peut être interprété comme du cynisme, ce n'en est pas. C'est juste la description, je dirais, d'éléments extrêmement structurants. En ce qui concerne l'Arabie Saoudite, il faudrait expliquer que si nous avons pu relancer un petit peu notre dépense militaire, précisément par l'état de guerre que nous connaissons, c'est parce que nous sommes en situation d'exporter des systèmes d'armes. Alors après, ça renvoie à des explications concernant notre outil industriel et notre BITD. Je ne peux pas rentrer trop dans les détails, mais si vous voulez, il faudrait expliquer que c'est pas uniquement une question de jugement moral sur l'Arabie Saoudite, c'est que le fait d'exporter vers ces pays, c'est pas une question de savoir si c'est bien ou si c'est mal, c'est en même temps ce qui rend possible le maintien d'une BITD en France et un certain niveau de dépenses militaires.
France Culture, Culture Monde, Tiffaine de Roquigny.
Venons-en au présent à la nouvelle donne géopolitique à laquelle va être confrontée le ou la future présidente le 7 mai prochain. Et d'abord, on va faire un détour par les États-Unis.
J'ai dit il y a longtemps que l'OTAN avait des problèmes. En premier lieu, qu'elle était obsolète, car elle a été conçue il y a des années et des années. Et deuxièmement, les pays membres ne payent pas ce qu'ils devraient payer.
L'Europe sera toujours prête à poursuivre la coopération transatlantique, mais elle se déterminera en fonction de ses intérêts et de ses valeurs. Elle n'a pas besoin de conseils extérieurs pour lui dire ce qu'elle a à faire.
L'OTAN est obsolète, estime Donald Trump. C'était quelques jours avant son investiture. Réponse de François Hollande, l'Europe n'a de conseil à recevoir de personne. On pourrait d'abord revenir sur l'actualité, Thomas Gomard, et sur cette frappe américaine sur une base aérienne syrienne il y a 4 jours. On se souvient qu'à l'été 2013, la France était sur le point d'intervenir avec les États-Unis en Syrie après l'attaque chimique dans une banlieue de Damas. Mais au dernier moment, Barack Obama a reculé. Ça lui a d'ailleurs été beaucoup reproché par la suite. Pour la France, c'était un échec diplomatique évident. Qu'est-ce que la frappe décidée par Trump change aujourd'hui? Est-ce que la diplomatie française sera faiblie de cet épisode ou est-ce que d'une certaine façon, l'action américaine ne lui donne pas raison, même si la France n'a pas eu les moyens d'aller seule en Syrie?
Je ne sais pas si le problème se pose en termes d'avoir raison ou pas 4 ans après. Je pense que cette frappe montre à quel point la diplomatie française s'est marginalisée sur le dossier syrien. Vous faites bien effectivement de rappeler que les positions étaient très proches entre Paris, Londres et Washington à l'été 2013 et que Obama, pour des raisons d'ailleurs sur lesquelles il s'est longuement expliqué, a décidé de ne pas intervenir, laissant la France face précisément aux limites de son outil militaire. C'est-à-dire que c'était aussi une manière de montrer à la France qu'elle est désormais incapable de mettre, je dirais, en cohérence son discours et ses actes, en raison notamment de l'affaiblissement de son outil militaire. C'est surtout ça l'enseignement que je tire. Maintenant, sur la question plus précise de ce que les frappes décidées par Donald Trump modifient, bien je crois qu'elles sont en train de mettre un terme aux velléités de rapprochement russo-américain portées par le candidat Trump et le président élu Trump. On voit qu'il y a quand même une évolution tout à fait notable, notamment dans son entourage depuis 3 mois. En revanche, elle évidemment accentue la cassure géopolitique entre ce qui est du ressort des États-Unis au Moyen-Orient, pour faire simple, l'Irak, et ce qui est désormais du ressort de la Russie, la Syrie, et de Russie-Iran, évidemment, à mon avis, accentue les risques d'escalade.
On va accueillir un nouvel invité, Thomas Gomard, c'est Philippe Golub. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur de relations internationales à l'Université américaine de Paris et on avait envie de vous entendre aussi sur cette question des valeurs. Aujourd'hui, on l'a entendu, François Hollande estime que la France ne partage plus tout à fait les valeurs de son allié américain. Est-ce que, selon vous, cela pourrait marquer la fin de cet atlantisme qui a caractérisé les 2 derniers quinquennats ?
Je ne suis pas tout à fait sûr que la question de savoir si la France était devenue atlantiste ou pas, mais de savoir effectivement ce qui vient d'être dit, quelles sont les véritables marges de la France dans les relations internationales. Le rapprochement initié par Nicolas Sarkozy puis poursuivis par François Hollande dans leur démarche atlantique, c'est-à-dire leur rapprochement avec les États-Unis, l'intégration dans l'OTAN, n'a pas porté ses fruits. La France sous Sarkozy, Sarkozy a manifestement pensé pouvoir sinon remplacer, du moins se placer dans une position vis-à-vis des États-Unis où la France deviendrait un allié privilégié des États-Unis dans les relations internationales et dans les gestions des grands conflits. Ça ne s'est pas passé pour des raisons à la fois structurelles et des problèmes de vision. Au niveau structurel, la France n'est plus dans la position dans laquelle elle était pendant la guerre froide, c'est-à-dire en position de médiatrice entre les deux blocs. Il n'y a plus de troisième voie française. Et l'alignement même partiel sur les États-Unis n'a pas infléchi la politique américaine ni pu faire bouger les lignes dans la politique internationale. Donc on est là devant une situation où en fait la France pèse peu ou relativement peu. Et c'est dans les grands dossiers, les grands dossiers internationaux, que ce soit en Asie orientale ou au Moyen-Orient, et de moins en moins d'ailleurs, et sa voix, VOIX, est devenue de plus en plus faible au fur et à mesure qu'elle n'a pas su développer une vision nouvelle des relations internationales, ni pour l'Europe, ni pour la France.
Mais Philippe Golub, le grand paradoxe de la politique étrangère française, c'est qu'elle est devenue vraiment atlantiste au moment où les États-Unis se détournaient de leur rôle de gendarme du monde. Cela dit, on voit que la frappe américaine en Syrie et l'envoi d'un porte-avions en mer de Chine envoient aujourd'hui le message inverse. Si le président Trump se convertit bel et bien à l'interventionnisme, contrairement au discours qu'il a tenu pendant toute sa campagne, est-ce qu'on peut imaginer des relations différentes à l'avenir de celle qu'on imaginait jusqu'ici après l'élection du président Trump entre les États-Unis et la France?
Dans le cas de Trump, il ne s'agit pas d'interventionnisme dit humanitaire. C'est-à-dire que Trump n'intervient pas ni au nom de la démocratie, ni au nom des valeurs éthiques et morales. Il intervient au nom de la puissance américaine et de l'affirmation unilatérale, d'ailleurs, de cette puissance et dans un contexte où sa préoccupation principale, c'est la souveraineté et l'autorité des États-Unis dans le monde et non pas de changer les caractéristiques de ce monde.
Donc, mais il prend le risque de fâcher une grande partie de son électorat.
Il peut très bien accepter des régimes autoritaires, tout en cherchant à faire en sorte que ces régimes se plient à sa volonté. On n'est donc pas là du tout dans le cadre d'un multilatéralisme qui permettrait à différents acteurs de se joindre au nom de valeurs réelles ou supposées dans leurs interventions, mais dans des politiques de puissance. Donald Trump et l'équipe autour de lui aujourd'hui, c'est une équipe qui met en avant la réelle politique et les politiques de puissance nationale comme priorité essentielle stratégique. Et donc la France ne peut pas très bien rentrer dans ce cadre, puisque la France tient elle-même aussi un double discours. Il y a un discours éthique et moral. La France qui soutient à la fois le droit international, qui est au cœur de l'affirmation des principes du droit, du droit et des droits humanitaires internationaux, et de l'autre côté, la poursuite assez constante, d'ailleurs, côté français, depuis toujours, de ses intérêts nationaux. Donc les marges de manœuvre françaises dans ce cadre sous Trump sont très très limitées.
Quel regard Donald Trump porte-t-il aujourd'hui sur la France, selon vous, Philippe Golub? La France qui avait été qualifiée par l'ancien secrétaire d'État John Kerry de plus vieille alliée des États-Unis, même si ce qu'on a vu en réalité, c'est qu'Obama n'a pas fait grand cas de son allié français lors de ses deux derniers mandats, de ses deux mandats.
Le paradoxe, oui, effectivement, le paradoxe du réalignement français ou de la tentative d'intégration de la France plus profondément dans le système atlantique a eu lieu à un moment où les États-Unis se détournaient de l'Europe dans son ensemble, pas seulement de la France, mais de l'Europe dans son ensemble. Le regard des États-Unis depuis, d'ailleurs, assez longtemps, depuis Warren Christopher, depuis Clinton, s'est détourné peu à peu de l'Europe pour s'orienter vers l'Asie orientale en particulier, mais aussi les autres grandes régions émergentes du monde. Il faut se souvenir que Warren Christopher, le secrétaire d'État sous Bill Clinton, avait déclaré en 1993 déjà que l'Europe n'était plus le centre du monde. On est là dans un phénomène structurel où les États-Unis regardent plus, et pour des raisons stratégiques qui me semblent assez évidentes, vers l'Asie et d'autres régions émergentes comme les cœurs, les centres, là où l'avenir se fera. Et sous Trump, ce sera, à mon sens, encore plus affirmé que sous les administrations précédentes. L'Europe devra développer sa propre politique internationale de façon autonome et devra le faire dans un contexte très difficile, puisque les différents acteurs européens, comme on le voit tous les jours ont des intérêts et des visions différentes de ce que cela veut dire.
On l'a entendu, Philippe Golub, Donald Trump a sévèrement critiqué ses alliés européens, accusés de ne pas payer assez au sein de l'OTAN. Il y a une dizaine de jours, Rex Tillerson, le chef de la diplomatie américaine, a exigé que les dépenses de défense des alliés atteignent 2% du PIB de chaque pays d'ici à 2024. Est-ce que selon vous, ces exigences sont susceptibles de fragiliser un peu plus la relation avec les États-Unis ?
Alors, tout dépendra évidemment de la nature de la diplomatie des deux côtés de l'Atlantique à venir. Il me semble que pour certains pays, les 2% ne seront pas atteints. Ce sera sans doute le cas de l'Italie, même de l'Allemagne, d'autres grands pays. Je ne parle pas des petits pays qui consacrent encore moins leur effort de défense. Je ne vois pas comment il y aurait dans le contexte de ce débat assez récurrent d'ailleurs du partage du fardeau de la défense une vraie concordance, une vraie convergence des vues des deux côtés de l'Atlantique, surtout sous cette administration-là. Ce qui me semble plus certain, c'est que évidemment les grands acteurs institutionnels américains, le Pentagone, la CIA, les institutions de sécurité, voudront bien sûr maintenir la relation atlantique et les systèmes, les structures de sécurité et de défense, puisque ces structures de sécurité et de défense constitue un élément important de la puissance américaine dans le monde. Mais les relations entre l'Europe et les États-Unis sont, me semble-t-il, vouées non pas nécessairement à se dégrader, mais en tout cas, il y aura un délitement progressif de l'unité du système atlantique sous Donald Trump, en tout cas de ce que l'on voit sous Donald Trump aujourd'hui.
Des relations vouées à se distendre, Thomas Gomard, vous êtes d'accord entre l'Europe et les États-Unis ?
Je pense que ce sont effectivement des relations qui vont être marquées par l'unilatéralisme en réalité, beaucoup plus que par l'isolationnisme des États-Unis. Et le fait que nous sommes en train de passer d'un président Obama très cérébral à un président beaucoup plus impulsif, beaucoup plus imprévisible, qui est en train lui aussi de faire ses premiers pas en politique étrangère et qui est absolument pas préparé à le faire. Donc on rentre aussi dans une période extrêmement dangereuse de mon point de vue, que ce soit au Moyen-Orient, que ce soit en mer de Chine et que ce soit plus largement sur les questions européennes. Un mot peut-être là-dessus pour rappeler la position française. Il y a dans les fils rouges de la politique étrangère française, on a parlé du projet européen depuis 50, 57, etc. Mais il y en a un deuxième qui remonte plus loin dans le temps, qui remonte en gros à 1916, 1917, qui est ce qu'on appelle dans le jargon le P3, cette relation très spécifique qu'entretiennent les États-Unis, la France et la Grande-Bretagne en matière nucléaire et en matière de sécurité. Et qui fait qu'aujourd'hui, une bonne part des interventions militaires françaises ne serait tout simplement pas possible s'il n'y avait pas du soutien, notamment en termes de partage d'intelligence, de renseignements, pardon, avec les États-Unis.
Merci beaucoup Philippe Golub, je rappelle, professeur de relations internationales à l'Université américaine de Paris. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. On parlait à l'instant de l'OTAN et en 2008, sous l'impulsion de Nicolas Sarkozy, la France est revenue dans le commandement militaire intégré de l'OTAN qu'elle avait quitté en 1966. Mais parallèlement, Paris s'est retiré de presque toutes les opérations militaires de l'Alliance Atlantique, préférant l'intervention dans des cadres nationaux ou dans des coalitions ad hoc. Thomas Gomard, comment doit évoluer selon vous aujourd'hui la relation de la France à l'OTAN pour compléter les propos de Philippe Golub?
C'est sur ce point d'ailleurs que les candidats à la présidentielle s'expriment le plus volontiers. Certains souhaitant un retrait de l'OTAN ou un retour à la situation d'avant 2009, qui est souvent présenté, si vous voulez, comme l'acte d'indépendance du général de Gaulle lorsqu'il prend cette décision en 1966, mais décision tout de suite accompagnée d'accords très étroits en termes de sécurité sur la mise en œuvre des forces françaises en cas d'attaque soviétique à l'époque. Ce qui est important sur 2009, c'est effectivement le fait que Nicolas Sarkozy fait ce rapprochement parce qu'il se présente comme appartenant à la famille occidentale et ça a été très bien expliqué par Philippe Golub. Il le fait à un moment où précisément les États-Unis se retirent d'Europe et je pense que ça c'est effectivement une tendance lourde et il essaie de l'habiller avec une relance de ce qu'on appelle l'Europe de la défense, cette idée sur laquelle les Européens dans le cadre otanien, ce qui est un long débat entre Européens, prendraient une forme d'autonomie stratégique. Or, je dirais 8 ans plus tard, il n'y a pas du tout de progrès significatif en la matière. Donc, d'une certaine manière, ce retour dans l'OTAN s'est fait sans avoir un gain politique ou un gain militaire. Et de ce point de vue-là, c'est une occasion manquée.
L'année 2016 a été marquée par le grand retour de la Russie sur la scène internationale qui s'est illustrée par la reprise d'Alep par les forces de Bachar el-Assad soutenues par Moscou en décembre. 3 candidats au moins aujourd'hui sont favorables à un rapprochement avec la Russie, François Fillon, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon. On sait que le prochain président va hériter de relations franco-russes plutôt dégradées à cause des sanctions liées à l'annexion de la Crimée et aux affrontements dans l'Est ukrainien. Autre sujet de tension, l'annulation de la vente des Mistral et bien sûr plus récemment les opposition entre Paris et Moscou sur le dossier syrien au Conseil de sécurité de l'ONU. On le voit, le débat sur la politique à mener à l'égard du Kremlin est devenu extrêmement clivant ces dernières années. En se rapprochant de la Russie, Thomas Gomard, est-ce que la France n'a pas plus à perdre qu'à gagner, notamment en termes d'image, puisqu'on a des intérêts communs avec la Russie, comme vous dites, mais on a des valeurs différentes?
Ça, à l'évidence. Et le Kremlin a fait son choix. Pour ce qui concerne la campagne électorale, en recevant Marine Le Pen, Vladimir Poutine a, d'une certaine manière, participé à la campagne électorale française. Et ça laissera aussi des traces, très probablement. On verra évidemment le résultat le 8 mai au matin. Je crois qu'il y a 2 choses importantes à dire avec la Russie. C'est qu'il n'y a pas d'équilibre possible en Europe sans la Russie. Que donc toute politique qui consiste à vouloir isoler durablement la Russie ou, comme ça effectivement était peut-être le cas dans les années 90, à la rabaisser, je dirais, se paie comptant à un moment où la Russie est en train de renouer avec une forme de nationalisme, de très grande confiance en elle-même. En même temps, vous avez raison, il y a des divergences assez fondamentales avec la Russie qui sont souvent gommées par les candidats que vous évoquez, par méconnaissance du système russe dans son mode de fonctionnement interne, mais également de sa vision de politique étrangère. Je pense qu'il ne faut pas du tout se tromper. La Russie considère aujourd'hui qu'elle a plusieurs cartes à jouer, qu'elle peut bénéficier du désarroi identitaire des Européens, qu'elle considère que l'Union européenne est appelée à disparaître, à se dissoudre.
En cela, elle partage l'opinion de Trump.
En cela, effectivement, elle partage l'opinion de Trump. Et elle est très à l'aise dans un rapport de type Conseil européen classique, de puissance à puissance, parce que c'est effectivement la puissance forte du continent, puissance nucléaire, puissance militaire, puissance qui, au fond, se considère que le potentiel économique est moins important que la force militaire, et considère également que l'autoritarisme peut être une chose positive et que la démocratie représentative telle que nous la concevons est à bout de souffle.
Le dossier central qui attend le futur président en Europe, c'est le règlement de la crise en Ukraine, où, comme l'écrit Courrier International il y a quelques jours, l'instabilité est devenue la norme 2 ans après les accords de Minsk. Comment relancer aujourd'hui les négociations de paix? Est-ce qu'il faut conserver le format Normandie, qui est le nom qui est donné aux réunions entre la France, l'Allemagne, la Russie et l'Ukraine?
Bon, ça c'est de la technique diplomatique, c'est important évidemment, mais je pense que politiquement ce qu'il faut retenir et mettre au crédit à la fois de François Hollande et d'Angela Merkel, c'est d'avoir su, faut se souvenir de la situation à l'été 2014, d'avoir su arrêter l'escalade. Est-ce que c'est le cadre approprié pour régler définitivement la situation en Ukraine? Je ne le pense pas. C'est-à-dire que je pense que c'est une situation qui est enquistée pour plusieurs années, voire plusieurs décennies. On est probablement rentré dans une logique de conflits gelés. Et donc ces conflits gelés, il faut aussi les prendre dans un cadre plus large. Il n'y en a pas qu'en Ukraine. L'annexion de la Crimée est effectivement un tournant en termes de sécurité européenne, puisque un pays membre du Conseil de sécurité a délibérément modifier les frontières en faisant cette annexion. Mais je pense qu'il faut revoir... Il y a 2 problèmes politiques immédiats. Le problème, c'est la stabilité de l'Ukraine en tant que telle, qui est dans une situation politico-économique presque désespérée. Et en même temps, le fait que la relation avec la Russie doit se prendre dans un cadre de sécurité européenne plus large et que nous devons parvenir à parler avec Moscou de l'ensemble des conflits gelés, y compris ceux en Ukraine.
Une dernière question, Thomas Gomard, avant que vous nous quittiez, parce que vous avez des contraintes. Quel regard nos partenaires étrangers portent-ils sur la diplomatie française actuelle et le nouveau virage qu'elle pourrait prendre après l'élection présidentielle du 7 mai ?
Je pense qu'il y a une très forte attente. Je suis très frappé en voyageant régulièrement des questions très inquiètes sur notre situation politique. Il y a une très forte attente, il y a une reconnaissance du professionnalisme de notre outil diplomatique, de notre outil militaire, et une volonté de voir la France produire des idées nouvelles, faire preuve d'une approche beaucoup moins défensive, de repli identitaire, mais une approche beaucoup plus ouverte et surtout de relance d'une dynamique européenne.
Un grand merci Thomas Gomard de nous avoir aidé à décrypter les enjeux de la politique étrangère française, passée et future. Je rappelle votre livre « Notre intérêt national, quelle politique étrangère pour la France ?» paru en janvier chez Odile Jacob. Merci beaucoup. Et on va partir du côté de la Chine.
Il est vrai que la mondialisation économique a créé de nouveaux problèmes. Mais ceci ne justifie pas d'en sortir complètement. Nous devrions plutôt nous adapter et guider la mondialisation économique, amortir son impact négatif et offrir ses avantages à tous les pays et à tous les peuples.
Bonjour Alice Ekman.
Bonjour.
Vous êtes responsable des activités Chine au Centre Asie de l'Institut français des relations internationales. On l'a entendu à l'instant, le président Xi Jinping se pose en défenseur du libre-échange. C'était au forum de Davos en janvier. Une manière pour la Chine de se présenter comme le nouveau leader de l'économie mondiale face à une Amérique tentée par le protectionnisme. C'est un discours qui s'adresse aux pays émergents, mais aussi aux pays européens, et qui est une façon d'inviter la France parmi d'autres pays à se détourner de Washington, Alice Ekman, et de promouvoir en quelque sorte ce monde multipolaire que la Chine appelle de ses voeux?
Alors, pour être précis, la Chine ne soutient pas spécifiquement le libre-échange, mais ce qu'elle appelle la mondialisation économique. C'est différent puisqu'elle ne soutient pas le libéralisme économique. Mais il est vrai qu'elle utilise de plus en plus des concepts qui sont traditionnellement employés par les démocraties occidentales, mais avec un sens nouveau, avec un emploi nouveau. Et c'est intéressant d'analyser cet écart de définition, parce que en effet le discours de Davos donc a fait référence à la mondialisation économique, mais aussi au multilatéralisme dans un contexte où les États-Unis semblaient davantage en retrait suite notamment donc au retrait du TPP et avec une position plus ambiguë face au multilatéralisme. Donc pour la Chine, cet emploi de certaines expressions, de certains concepts, est lié à sa volonté de consolidation de son statut de grande puissance et aussi à un positionnement en tant que bon élève. C'est à la Chine aujourd'hui d'assurer, d'être le garant de la mondialisation, d'être le garant du multilatéralisme face à des puissances qui ne sont plus en mesure de l'être.
Pour revenir, pardonnez-moi Alice Ekman, aux relations bilatérales entre la France et la Chine, le principal problème que vous pointez, c'est un fort déséquilibre dans les échanges économiques et commerciaux. Malgré des efforts en ce sens depuis plus de 10 ans, la France ne parvient toujours pas à obtenir de réciprocité et l'accès au marché chinois est toujours aussi difficile, voire encore plus qu'avant, vous allez nous le dire, pour les entreprises françaises. Comment l'expliquer et quelle nouvelle approche préconisez-vous pour mettre fin à cette asymétrie ?
Oui, en effet, les relations Chine-France vont être marquées par trois grands enjeux dans les prochaines années. Elles le sont déjà aujourd'hui. Tout d'abord, ce problème de réciprocité. Les échanges économiques et commerciaux restent marqués par un fort déséquilibre puisque la Chine représente le premier déficit commercial bilatéral de la France devant l'Allemagne. Alors, plusieurs éléments peuvent expliquer. Tout d'abord, le rôle important de l'État dans l'économie chinoise et l'accès au marché chinois demeure difficile pour les entreprises françaises comme de nombreuses autres étrangères et tend à se renforcer compte tenu à la fois du maintien donc du rôle de l'État dans l'économie, mais aussi dans un contexte de déploiement d'une stricte campagne anticorruption. Donc ça, c'est une conséquence indirecte de cette campagne, c'est-à-dire que les acteurs locaux chinois, les cadres locaux et centraux, sont réticents à prendre l'initiative dans le cadre de cette campagne, hein, notamment l'initiative qui pourrait être mal perçue par les autorités centrales.
C'est devenu trop risqué.
Dans ce contexte, de nombreux projets, de nombreux dossiers sont en attente Et l'avancement de certains projets d'entreprises françaises sont freinés donc et renforce le problème de réciprocité que la diplomatie française avait essayé d'adresser depuis plus d'une décennie, mais aujourd'hui l'obstacle est toujours le même. Alors une des solutions qui pourrait être employée serait l'approche européenne. Dans la continuité des discussions bruxelloises sur la reconnaissance éventuelle du statut de marché, d'économie de marché à la Chine en fin 2016, plus récemment de l'appel conjoint de la France, de l'Italie, de l'Allemagne, donc début 2017, pour que l'Union européenne restreigne les investissements étrangers dans les entreprises qui détiendraient des technologies clés. Donc on voit ici, aujourd'hui, on observe des initiatives au niveau européen, au niveau de plusieurs États membres, soit à Bruxelles, pour rétablir une forme de réciprocité entre le marché européen et la Chine, mais la tâche est ardue.
La création de la Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures est l'un des derniers grands succès diplomatiques de la Chine. Pékin a réussi à attirer 57 pays comme membres fondateurs, dont la France, malgré les pressions exercées par Washington. Quels avantages la France pourrait retirer de cette adhésion sur le plan économique, mais surtout sur le plan diplomatique? Et ce sera ma toute dernière question, parce qu'on arrive à la toute fin de cette émission.
Alors, vous avez raison de souligner l'activisme institutionnel chinois, puisque la Chine crée de nouvelles institutions, donc dont la Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures, mais ce ne sera pas la seule. La Chine compte en créer de nouvelles dans plusieurs secteurs, donc sécurité, mais aussi cybergouvernance, espace. Et la question qui se posera à la France dans les prochaines années, c'est quid de la participation française? Est-ce que la France doit rejoindre ces institutions créées par la Chine? À quelles conditions et dans quels intérêts? Alors, à la fois, la France devra donc anticiper ces décisions relatives à une participation, mais je pense qu'il est aussi important pour la France que la stratégie de gouvernance mondiale ne soit pas uniquement défensive ou formulée en réaction aux initiatives chinoises.
Merci beaucoup, Alice Ekman. Malheureusement, on arrive à la toute fin de cette émission. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Vous êtes responsable des activités Chine au Centre Asie de l'Institut français des relations internationales. Tout de suite, c'est l'heure du Tour du Monde des Idées avec Brice Couturier.
Le Tour du Monde des Idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Tiffaine.
L'Université d'Europe centrale de Budapest est menacée de fermeture par le gouvernement hongrois. Il y a eu la semaine dernière d'importantes manifestations dans la capitale hongroise pour protester contre cette décision. Vous souhaitez revenir sur cette affaire?
Oui, Viktor Orban s'apprête-t-il à suivre l'exemple de Vladimir Poutine? Va-t-il à son tour expulser les ONG indésirables, c'est-à-dire celles qui défendent les droits de l'homme, dénoncent la corruption, comme l'a fait le maître du Kremlin en mai 2015? Toutes ces organisations non gouvernementales sont pour Poutine, on le sait, des agents de l'étranger, en clair, des relais d'un Occident déterminé à le renverser, comme l'a été son ami Viktor Yanukovych en 2014 en Ukraine. Il faut dire que les militants de l'opposition menacés par le régime autoritaire russe trouvaient en effet de l'aide auprès de ces organisations. Elles faisaient connaître à l'opinion mondiale leur combat et la répression dont ils sont victimes. C'est une tradition locale. Déjà dans les années 1980, certaines ONG avaient pu s'infiltrer derrière le rideau de fer. Elles étaient parvenues à fournir une aide matérielle décisive aux dissidents en s'appuyant sur les accords d'Helsinki signés par Moscou en 1975. Le milliardaire George Soros, qui pèse environ 25 milliards de dollars, a toujours été au premier rang de cet activisme en faveur des droits de l'homme. Soros est né en Hongrie, mais il a fait fortune dans la finance au Royaume-Uni. C'est un joueur, un très gros joueur, peu intéressé par l'argent, d'après ses proches, il applique à ses stratégies d'investissement d'étranges modèles mathématiques. En 1992, il n'a pas hésité à attaquer le gouvernement britannique de John Major, proclamant qu'une dévaluation de la livre sterling était inévitable, et il a gagné, empochant sur son pari une somme colossale. Or, George Soros, je le disais, est aussi le militant d'une cause. Je reviendrai sur le problème que pose à nos démocraties le désir d'influence de certains de leurs milliardaires. Mais dans le cas de George Soros, il a été fortement influencé par la pensée politique de Karl Popper, dont les deux volumes de « La société ouverte et ses ennemis » sont ses livres de chevet. Il a décidé, il y a longtemps, de consacrer une partie de cette immense fortune à la promotion des idées popperiennes, c'est-à-dire libérales. Alors les fondations Open Society, qu'il a commencé à bâtir en 1979, ont joué, et j'en ai été un témoin direct sur place, un rôle extraordinaire dans la réanimation de la vie intellectuelle et universitaire en Europe centrale et orientale après la chute du communisme en 1989. Grâce à la fondation Stéphane Batory, créée en Pologne en 1988, de nombreux étudiants d'Europe centrale ont bénéficié de bourses pour aller étudier dans les plus prestigieuses universités d'Europe occidentale. Soros a aussi financé des dizaines de revues intellectuelles de toute obédience intellectuelle et politique dans les pays d'Europe centrale. Le but était de ranimer sur place une vie intellectuelle étouffée par un demi-siècle de censure et de provincialisation. En 1991 a été créé, grâce à l'engagement financier de George Soros, le Civic Education Project. Ce programme a permis à une centaine de jeunes universitaires anglophones de tous les pays, leur doctorat en poche, d'être envoyés en mission dans l'autre Europe afin d'y ranimer l'étude de la philosophie, de la sociologie, de l'histoire et de l'économie. Et en 1991, Soros a créé avec son propre argent l'Université d'Europe centrale de Budapest, couronnement de cette incroyable entreprise philanthropique.
Et c'est cette université qui est aujourd'hui visée par une loi adoptée à la va-vite par le Parlement hongrois à la demande du chef du gouvernement, Viktor Orban.
Oui, Stéphane, la Central European University compte aujourd'hui 1440 étudiants. Ils sont originaires d'une centaine de pays, mais surtout d'Europe centrale et du monde post-soviétique. Ils sont tous inscrits en master ou en doctorat. Cette université forme aux sciences humaines une nouvelle élite destinée à encadrer les sociétés centre-européennes. Elle s'inspire de trois principes de base. La bonne gouvernance, ce qui implique la lutte contre la corruption et contre la politisation des hauts fonctionnaires. Le développement durable et la transformation sociale. Viktor Orban, le Premier ministre hongrois, est depuis longtemps hostile à la présence dans son pays des fondations soutenues par Soros. Ces dernières années, les diverses ONG dépendant de son Open Society ont fait l'objet de harcèlement. Les médias publics hongrois ont traité leurs employés d'esclaves de Soros. On les a accusés de propager le politiquement correct américain. Le 31 mars, le ministre hongrois des Ressources humaines, Zoltán Balog, adoptait un amendement à un projet de loi stipulant qu'un établissement d'enseignement supérieur opérant en Hongrie devait correspondre à une université existant dans le pays d'origine. Et aussitôt, cette loi a été baptisée par les médias locaux la Lex CEU, car il est clair que l'Université d'Europe centrale est la seule visée. Ce week-end a eu lieu une manifestation réunissant plus de 50 000 personnes en soutien à l'université en question à Budapest. Une pétition de soutien a été signée par de très nombreux universitaires et une dizaine de prix Nobel. Le paradoxe, c'est que Viktor Orban lui-même a bénéficié d'une bourse de Soros grâce à laquelle il a pu venir étudier à Oxford. À ses débuts dans la politique à la tête des jeunes libéraux du Fidesz, Orban était, écrit Cass Muddle dans The Guardian, l'enfant chéri de l'élite occidentale. Aujourd'hui, à la tête d'un parti qui est passé au souverainisme autoritaire, il estime que la démocratie libérale est dépassée et enhardi par le Brexit et l'élection de Trump, il prône une démocratie illibérale inspirée du modèle poutinien. Eh bien, les libertés universitaires risquent fort d'en faire les frais à Budapest.
Merci beaucoup Brice, on peut réécouter bien sûr vos chroniques en podcast et sur franceculture.fr.